Bonjour. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce deuxième rendez-vous d'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que je vous explique d'où vient le titre de l'émission d'autrefois sur le câble depuis 1997. C'est sur Internet, et maintenant, c'est de retour sur les ondes du Grand Montréal grâce à cette radio 1570 AM, la radio du mieux-être. Mieux-être physiquement, bien sûr, psychologiquement aussi, mais même spirituellement, sans être obligé d'adhérer à un mouvement religieux ou à une secte quelconque. La démarche d'ésotérisme expérimental que j'ai entreprise en 1976 était vraiment précurseur, avant-gardiste. Et comme on dit, lorsqu'une flèche atteint sa cible, la pointe, plus elle est fine, plus elle est écrasée en entrant sur la cible. Comme on était à la fine pointe des développements spirituels en dehors des religions, à la fine pointe de l'information, qu'elle soit d'ordre marginal quant à le regard qu'on a sur la politique ou même sur la science, c'était très périlleux, un grand risque que j'ai pris en 1976 et jusqu'en avril 1997, nous étions sur les réseaux de câbles au Québec. Maintenant, c'est sur Internet, depuis 1997, avril 1997 précisément. Et aujourd'hui, sur les ondes de la région du Grand Montréal, c'est avec un grand plaisir que plusieurs me retrouvent et que je retrouve, et des nouveaux, bien souvent des jeunes, qui se demandent un peu, mais qu'est-ce que c'est que de l'ésotérisme, et appeler ça ésotérisme expérimental. On va mettre les horloges à l'heure immédiatement. L'ésotérisme, c'est un terme très, très ancien, qui veut dire, dans le fond, des connaissances transmises à des initiés. C'est pas des sociétés secrètes, c'est pas de l'occultisme, c'est de s'intéresser à un domaine en allant en profondeur. Et quand on devient très spécialiste dans un domaine, quel qu'il soit, que ce soit même les sports, si vous êtes un coach au hockey, vous savez ce que c'est qu'on appelle faire la boîte. Alors, les joueurs se placent aux quatre coins de la patinoire, rendus dans la zone adverse, ils vont faire la boîte. On peut faire aussi le triangle. C'est des mouvements de jeu qui permettent rapidement de saisir la position qu'on doit prendre sur le terrain. C'est initiatique pour ceux qui, de l'extérieur, regardent la chose, ça devient ésotérique. Quand on vous parle d'une céphalée au lieu de vous dire un mal de tête, ben, en fin de compte... Ça a de l'air très scientifique, très sérieux, très compétent, mais un mal de tête, ça dit ce que ça veut dire. Alors qu'une céphalée, c'est dans un langage ésotérique pour les médecins qui sont spécialisés dans leur domaine. On pourrait dire qu'il y a deux termes qui se rapprochent l'un de l'autre, c'est ésotérisme et exotérisme. Exotérisme, vous le voyez venir, c'est l'extérieur des choses. C'est donc à la portée de tous, on n'a pas besoin d'être initié, d'être spécialisé. Alors que l'ésotérisme, c'est plus vers l'intérieur. Alors on dira dans l'étude de l'ésotérisme que l'être humain est le sujet en ésotérisme, alors qu'en exotérisme, l'être humain est l'objet, est traité comme un objet. Il y a une troisième phase très peu connue, qui est celle du 21e siècle, qui va évidemment supplanter l'ésotérisme, l'exotérisme, et qui va permettre peut-être un rapprochement de tous les êtres humains, c'est l'isotérisme. Alors, de l'origine grecque, iso, qui veut dire semblable. Vous connaissez déjà les termes isotherme, justement, veut dire de la même température, température semblable. Autrefois, les entreprises tentaient d'avoir leur code, la cote ISO, ISO 9001, ISO 9002, vous souvenez-vous? À la fin du siècle dernier, des entreprises cherchaient à avoir l'approbation ISO, qui voulait dire que la production ou les services fournis par l'entreprise auraient toujours exactement la même qualité. Alors tout ça, ça prend tout son sens lorsqu'on commence à s'intéresser à des valeurs existentielles, qu'elles soient de nature physique, matérielle, psychologique ou spirituelle. Comme je le disais au début, c'est pas dans une secte, c'est pas dans une religion, c'est pas dans une science. C'est un ensemble de tout ça dans ce qu'on pourrait finalement qualifier du mieux-être. Le sens même de cette station de radio qui s'appelle bien sûr la radio du mieux-être. Maintenant, j'ai ajouté au terme ésotérisme le mot expérimental. Mais si on le décortique un peu en trois, on va découvrir que « ex », ça veut dire encore à l'extérieur, comme « exotérisme », « expérimental », c'est à l'extérieur, « péri », qui veut dire « autour de », ça donnait le mot « périmètre ». Et vous l'avez vu venir, oui, autour du périmètre du mental. Donc on est à l'extérieur d'une démarche qui est strictement mentale, intellectuelle. C'est une démarche qui est beaucoup plus subjective, qui nous permet de comprendre les choses par son vécu, par ses expériences personnelles. De là, c'est de l'ésotérisme expérimental. Mais pour les profanes, c'est simple, c'est expérimental parce qu'on fait une expérience en diffusant de manière publique ce qui était réservé qu'à des initiés. Alors maintenant, vous connaissez la démarche que j'ai entreprise en 1976 et qui se continue toujours, envers et contre tous, j'oserais dire. Alors que j'avais 30 ans, maintenant j'approche 70 ans, et grâce à Internet, on peut entendre ces chroniques en podcast, comme on dit, et on peut aussi retrouver le site qui est très très actif et qui permet d'entendre et de retrouver des documents d'archives d'autrefois, aussi bien que de nouveaux conférenciers, de nouveaux spécialistes, chacun dans leur domaine. Dans le fond, c'est une forme de pédagogie ouverte à tous. Une pédagogie, on retrouve cela dans les écoles, dans les centres du savoir, qu'on pourrait appeler les cégeps, les collèges, même les universités. Et là, peut-être on pourrait faire une réflexion sur la démarche pédagogique. Elle se fait en trois temps. Le premier temps, c'est depuis la naissance, on forme le bébé et de cette formation, on lui donne une base d'éducation, de savoir-vivre, de bien se comporter. Ensuite, on l'envoie à l'école. Là, il va être informé. Alors, au début, il est formé. Il reçoit une information qu'on va appeler l'instruction. Et ensuite, il va monter, il va graduer, il va monter, monter, et il va se transformer. Il va être élevé. Il va même s'élever dans la société avec l'accumulation des connaissances qu'il aura acquises et des performances et des diplômes qu'il obtiendra. Alors, on a vu qu'il y avait trois étapes. La formation, l'information, et la transformation. Je pourrais reprendre l'exemple du vin. D'abord, au départ, on va avoir un vase dans lequel l'être humain est dans un corps physique. C'est son vase. On va le former graduellement. Il va faire des muscles, il va se développer dans le sein de la mère, il va naître et ensuite il va continuer à se former. Et pendant ce période de temps, on va faire de l'éducation. L'éducation, ça veut dire, dans un sens, l'éveiller. L'éveiller à la vie, l'éveiller à toutes les réalités. Il va être curieux, il va vouloir toucher, il va vouloir goûter. Vous connaissez Piaget et les étapes du développement de l'enfant. Ensuite, vers l'âge de la raison, comme on disait autrefois, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, on l'envoie à l'école se faire instruire. Alors là, on rentre de l'information, des data, des données, dans son cerveau. Et on lui fait expérimenter certains exercices au gymnase, on lui fait vivre des situations sociales, Et graduellement, l'enfant va devenir compétent. Il va savoir lire, il va savoir compter. Il va savoir porter un jugement graduellement sur son environnement. Il va quitter le nid familial pour entrer dans la société. Et en grandissant, il va être de plus en plus transformé. Le vase qui contenait du jus de raisin va se transformer graduellement en vin. Il va être transformé en vin. Et là, ça devient un spiritueux. On appelle ça un spiritueux. Ça élève l'esprit, dit-on. Oui. Alors voilà les trois étapes de cette pédagogie, de la démarche que je fais depuis 40 ans bientôt. Il faut donc comprendre que ce n'est pas demain la veille qu'on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la vie apporte toujours de nouveaux éléments d'observation, d'expérimentation. Nous faisons maintenant une pause, nouvelle formule qu'on essaie cette semaine, une pause musicale proposée par notre ami Jean-Paul Lheureux. On se retrouve après pour parler des grands principes des écoles ésotériques. Je vous dis simplement la devise, connais-toi toi-même, et la suite après cette pause. Nous voici de retour dans cet ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. On disait, avant cette pause musicale, qu'il y avait de l'ésotérisme, de l'exotérisme et bientôt de l'isotérisme, donc des connaissances transmises sur toute la Terre, sans considération de religion, de secte, de mouvement, qu'ils soient politiques, religieux ou autres, qui va permettre un peu, à la manière de la science, de nous amener de l'information qui est, disons-le, universelle. Et ces informations vont probablement nous aider, enfin, à nous connaître, à nous comprendre. Et la devise qui était sur le frontispice des temples initiatiques de Delphes en Grèce antique se disait: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Est-ce qu'on voulait dire les extraterrestres? Mais une chose est certaine, c'est que l'être humain qui se connaît lui-même à travers ses expériences personnelles comprendra rapidement en vieillissant que tout est semblable pour tout le monde. On passe par les mêmes étapes de l'évolution, de grandir de l'état bébé jusqu'à l'adulte. On vit aussi des expériences psychologiques assez semblables, présentées sur des scénarios différents. Évidemment, on a chacun notre pièce de théâtre à jouer sur une scène différente, la scène de la vie. Mais on passe par les mêmes émotions et on arrive un jour à vivre une espèce de contemplation, d'observation, comme un spectateur qui quitte la scène parce que son rôle est joué. Il se retire côté jardin ou côté cour et il regarde les autres continuer la pièce. Et à la toute fin, il recevra son ovation, un peu comme tous les autres artistes qui ont participé à l'exécution de la pièce. Alors le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, telle est la devise fondamentale de toute démarche ésotérique, puisqu'elle était la devise des temples initiatiques. On pense au temple de Delphes, mais on pourrait penser à des écoles comme Pythagore et les autres qui recevaient des adeptes, des jeunes qui voulaient apprendre. À l'époque, on enseignait des choses assez fondamentales, matérielles, la géométrie, l'arithmétique même, l'astronomie et l'algèbre dans certaines écoles orientales ou du Moyen-Orient, parce que algèbre, vous le voyez, c'est Allah, c'est algèbre, ça veut dire la mesure de Dieu. Et ici, en Occident, on est très, très intellectuel. Parfois, malheureusement, l'intellect tue l'imagination. Et Albert Einstein avait dit, l'imagination est plus importante que toutes les connaissances. Oh là, d'Albert Einstein, car avait-il vraiment compris que par l'imagination, tu traverses les limites de l'espace-temps et ça te permet d'adhérer sans doute à des perceptions que le matériel te limite. Donc, dans les écoles, on sait, il y a des degrés, hein? Il y a l'école primaire, l'école secondaire, des écoles plus avancées comme les collèges, le cégep et même l'université. Il y a des étapes. On ne peut pas brûler d'étapes. On ne peut pas apprendre la trigonométrie avant d'avoir appris la géométrie. Et la même chose dans les langues. Quand on apprend la conjugaison, on commence par apprendre un vocabulaire de base. On fait des phrases verbales de manière structurée, sans avoir appris nécessairement la grammaire. Un enfant qui arrive à l'école, il sait déjà composer une phrase. Ce qui nous rappelle que la tradition ésotérique était transmise à l'origine de manière orale. La tradition orale, comme on dit. Et ça permettait quand même d'adhérer à des connaissances structurées qui permettaient de gérer ces informations dans son cerveau pour mettre de l'ordre dans tout cela. On parle d'aller jusqu'à l'université. Évidemment, entre vous et moi, on est très prétentieux de croire que la connaissance qui est à l'université est universelle, puisque on réalise déjà par la physique quantique à quel point, lorsqu'on change de niveau, de dimension, si on veut, on se rend compte que certaines données qui étaient fondamentales, croyait-on universelles, perdent tout leur sens. L'intrication, par exemple, en physique quantique. Il y a plein d'informations qui nous échappent encore aujourd'hui, même si on a développé de la très haute technologie qui nous permettent de saisir les particules atomiques et subatomiques, c'est-à-dire ce qui compose un atome. On dira l'électron, le proton, le neutron, mais tout ça est à l'intérieur, il y a des quarks. Alors, non, pas des quartz dans le sens d'un cristal minéral, mais des quarks. Alors, on parle maintenant du boson de Higgs, qui n'aurait aucune masse, et pourtant, il existe. Il a été découvert, prouvé en laboratoire il y a quelques mois seulement, au CERN, et on comprend maintenant que M. Higgs avait perçu la chose avant de la toucher physiquement, matériellement. Avant son décès, heureusement, il a appris que la chose avait été découverte. Alors là, il est très, très heureux et il va sûrement vivre une éternité de bonheur. Alors maintenant, dans ces écoles, on transmet beaucoup de connaissances et on touche plus souvent, malheureusement, à l'intellect qu'à l'intuition. Dans ce que j'appelle les écoles cosmiques, auxquelles a fait souvent référence Rudolf Steiner, qui, soit dit en passant, Rudolf Steiner a été considéré comme le plus grand penseur du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il touchait à tous les domaines, que ce soit la biologie, l'agronomie, vous voyez, l'éducation, la pédagogie. Alors, ce Rudolf Steiner disait, quand tu fais un pas dans la connaissance, fais au moins 3 pas dans ton développement personnel. Saisis quels sont les mobiles de ton existence. Pourquoi est-ce que tu vis? Et ça a l'air niaiseux, mais en fait, on doit se demander d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, puis où est-ce qu'on va après. De toute façon, qu'on se le demande ou qu'on ne se le demande pas, on est dans la pièce de théâtre, il faut qu'on joue un jeu en quelque part, et même si on ne joue aucun jeu, ben on est là. Et le fait d'être là, c'est d'être présent pour les spectateurs du cosmos, du ciel. Peut-être ils nous regardent comme quelqu'un qui est là, mais qui ne fait rien. Mais il est là. Et le simple fait d'être là, c'est un petit peu le fait de réaliser qu'on existe. C'était peut-être ça, Bouddha, sous le platane, qui a reçu l'illumination. Gautama, Bouddha, Siddhartha. Et donc, Rudolf Steiner, qui était hongrois, qui est né en 1861, au mois de février, le 25 février 1861, est décédé en 1925, a quand même existé à une époque où il a pu entrevoir les développements ahurissants de la science, puisque la relativité d'Albert Einstein avait déjà été mise au point, tous les développements de base de la science très matérielle étaient là. Il suffisait maintenant de les développer. Savez-vous que Rudolf Steiner a donné plus de 6000 conférences qui ont presque toutes été écrites, transcrites par des scribes. Il se relayait deux ou trois par conférence, il prenait en note. Mais lui, Rudolf Steiner, il voyageait en Europe, en train en général. Il dormait durant ses voyages. Il recevait l'information et à l'arrivée de la nouvelle ville où il doit faire une conférence, il n'y avait pas de sujet de prévu. Il entrait, il s'installait et se mettait à parler pendant une heure et demie, toujours très cohérent, avec une compétence extraordinaire dans le savoir qu'il transmettait. Il avait déjà prévenu que le jour où on fera manger de la viande à des vaches, il y aura une toxine qui leur montera dans le système jusqu'au cerveau et elles deviendront folles. On a découvert la vache folle il y a quelques années et on a découvert que c'est à cause justement de leur alimentation qui contenait beaucoup trop d'éléments de viande dans les moulées qu'on leur donnait. Alors que les vaches, c'est des ruminants herbivores. Rudolf Steiner avait vu ça avant sa mort, 1925. Pour ma part, j'ai rencontré... pour mon public, plus de 6750 invités. Mettons 3 invités par semaine pour les émissions d'ésotérisme expérimental sur le câble autrefois, et ça se continue maintenant, tous les mois on en reçoit et on les diffuse sur mon site ésotérisme-exp.com. Alors ça nous fait 2250 semaines en 39 ans, depuis 76 jusqu'à maintenant. Alors, ça fait beaucoup de monde et donc beaucoup de connaissances qui ont été transmises. Ce que je transmets maintenant dans ces chroniques d'ésotérisme expérimental ici à la radio, c'est surtout un condensé structuré, j'allais presque dire hyper structuré, qui pourrait s'enseigner dans des écoles. Et je le souhaite donc qu'on remplace des cours de religion d'autrefois par des cours d'ésotérisme, que la connaissance universel, ésotérique, pourrait rejoindre tous les jeunes de la nouvelle génération qui, eux, n'ont rien appris de l'histoire du passé par les religions ou par les politiques, et qu'un enseignement planétaire, ésotérique, serait formidable pour garder le lien avec le monde spirituel, car c'est là l'important. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on est d'une nature intellectuelle, bien sûr. On se sert de notre cerveau avec les neurones pour créer des liens entre les éléments d'information qu'on reçoit à la période de l'information. Après être formé, on est informé pour vivre la transformation qui va nous permettre de nous élever. Et de nous élever à un point tel que dans l'ésotérisme, on va dire qu'on y va jusqu'à l'ascension. L'ascension qui nous permet de transcender les plans de la matière. Et là, évidemment, c'est un monde imaginaire, si on veut, c'est-à-dire un monde en dehors des formes, en dehors des limites du temps et de l'espace. Et on suit la règle de l'ordre. Autrefois, quand on voulait sanctifier une action dans notre monde, on avait les sacrements. Et le sacrement de l'ordre était donné à ceux qui voulaient devenir des prêtres, qui voulaient devenir le lien entre le monde matériel et le monde spirituel à l'état pur. Les autres allaient dans le mariage qui sanctifiait l'union d'un homme, d'une femme, d'un couple, par amour, et souvent dans le but d'engendrer. On est à une autre époque maintenant, mais les principes sont toujours les mêmes, simplement il faut les adapter dans le langage, dans l'expérimental, à l'époque d'aujourd'hui, sans perdre le sens de tout cela, garder de l'ordre. Alors, on va encore faire une pause musicale et par la suite, on va parler de trois lettres grecques. Trois lettres grecques que vous connaissez sans doute. Pi, la lettre Pi 3.1416. Bon, savez-vous qu'il y a Psi et la lettre Phi, qu'on va dire PHY. On se retrouve après cette pause musicale. Nous vivons sur le plan physique. Physique. Nous avons en nous du psychique. Eh oui, vous allez vous demander pourquoi j'insiste sur le son des premières lettres. Parce que physique, c'est la lettre phi chez les Grecs. Psychique, c'est la lettre psi. On connaît déjà l'alphabet. Alpha, bêta, gamma, ça devient le mot alphabet, en voulant dire lorsqu'on va prononcer toutes les lettres d'un alphabet, d'une langue, on se retrouve à dire l'alphabet, alors que ce sont les deux premières lettres de la langue grecque. Alpha, bêta. Alors, en revenant à notre plan physique, la lettre phi, qui donne phi cycle, les cycles qui reviennent régulièrement, c'est bien adapté au monde matériel. Le psychique, la lettre psy, qui est encore une fois une lettre grecque, qui nous donne accès au monde de la médiumnité, du sixième sens, le psychique, l'être psychique. Alors c'est le plan plus émotionnel, si on veut, alors que l'autre était le plan très matériel. Il y en a une troisième, très connue celle-là. Le chiffre pi, 3.1416. Là, ça vous dit quelque chose. Mais lui, alors, si le premier physique, c'était matériel, le deuxième psychique, c'est le plan du milieu, de la psyché, de l'être, le pi sera en relation avec le plan divin. Comment ça? Ben parce que le 3.1416, c'est un calcul précis de la quantité de longueur de raies de diamètre d'un cercle, deux rayons, le diamètre d'un cercle, la ligne qui traverse par le centre un cercle, vous pouvez la reproduire 3.1416 sur la circonférence, 3 fois 0.1416. 0.1416, ça veut dire, il n'y en rentre pas gros là, d'un quatrième diamètre, c'est 3 diamètres pleine longueur, plus un petit bout de diamètre qui vient, mais c'est un chiffre incommensurable. Comment ça? Ça veut dire que quand on le calcule de manière géométrique, on s'aperçoit qu'on arrive à une fraction qui n'aura jamais de fin. Les ordinateurs modernes ont essayé de calculer le nombre pi en ajoutant des décimales, des décimales, des décimales. Et pire encore, il n'y a jamais de retour comme un cycle qui reviendrait régulièrement, on dirait, ça va devenir une constante. Là, après 45 décimales, bon, on retrouve les mêmes 45 qui se répètent. Même pas. Ça n'est jamais, jamais, jamais la même. Et pourquoi je l'associe au plan spirituel alors que physique, c'est matériel, psychique, c'est les émotions, et le psychique, l'âme, le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, et puis carrément dans le monde spirituel. Parce que le diamètre trois fois autour de la circonférence, dia, Dieu, mètre, mesure, essayez de mesurer Dieu à la grandeur de l'expérience que nous avons. Notre rayon d'action, qu'il aille dans une direction ou dans l'autre, qui devient alors deux rayons, et deux rayons deviennent le diamètre, ne pourront jamais mesurer la circonférence de toute la réalité qui se développe dans l'univers, qu'on va appeler Dieu, c'est-à-dire la présence absolue, parfaite, partout, et Dieu est partout. Essayez de le mesurer à partir d'une expérience humaine, d'un rayon d'action humain, c'est impossible. Même en mathématiques, c'est un chiffre qui est sans fin, qui est infini. C'est beau, hein? Mais derrière tout ça, il y a certainement un chef d'orchestre. Il y a certainement quelqu'un ou quelque chose ou un état d'être. Il disait lui-même à Moïse, « Je suis celui qui est. » Celui qui est, c'est celui qui est. On n'essaiera pas de lui donner un nom, on n'essaiera pas de lui donner une forme, une apparence. Il est. Il est celui qui est. Et l'être qui est en méditation sous un platane, qui vit l'illumination, c'est l'être qui est. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, de jouer un jeu, de sauver les apparences. Il est. Et son expérience est à l'image de Dieu. On dit souvent, on a le Dieu qu'on mérite. Il est à notre image. Ce n'est pas nous qui sommes à l'image de Dieu. On se fabrique dans nos religions un Dieu à notre image. Dis-moi quel est ton Dieu, comment ton Dieu intervient dans la vie des hommes, des humains, et de quelle façon il s'est manifesté à l'humain, et je comprendrai qui tu es. Je ne dirai pas que tu es à l'image de Dieu. On a tendance à vouloir le croire, mais le Dieu des religions est un Dieu qu'on s'est fabriqué et qui est très souvent à notre image et à notre ressemblance. Alors que dans l'infinitude des choses, lorsque on mesure, on prend le temps d'un outil matériel pour essayer de mesurer. Et on comprend que ça ne se mesure pas. Ça nous demande beaucoup d'humilité et de percevoir que même avec des outils intelligents, intellectuels, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Derrière le phi, il y a un autre nombre extraordinaire qu'on appelle le nombre d'or. Et le nombre d'or est utilisé habituellement pour les artistes qui veulent faire des divines proportions d'un visage, des divines proportions dans la construction d'un temple. Pour connaître le fond de l'histoire du nombre d'or, c'est pas facile. Je reçois dans cette première fin de semaine complète du mois de novembre, un invité, Nouridim Yayabé, qui est physicien atomiste, qui a travaillé toute sa vie dans des laboratoires atomiques, professeur d'université maintenant en physique. Il vient de publier un livre, oui, c'est incroyable, mais le code caché des miracles de Jésus. Et il s'est servi des évangiles, alors que lui est d'origine musulmane. Il faut le dire. Il a découvert que les miracles de Jésus transmettent le nombre d'or qui prouve que cet être était un très grand initié. Était-il passé dans les temples initiatiques des Grecs, civilisation qui était sur son déclin à l'époque de Jésus? Là, c'était les Romains, hein? On connaît l'histoire. Mais toujours est-il que Nouridim va être avec nous à Montréal dimanche le 9 novembre, dans l'après-midi. Il était à Montréal dimanche le 9 novembre. Si vous écoutez cet entretien après son passage, je vous ferai entendre dans quelques semaines des extraits de cette conférence extraordinaire où il revient au nombre d'or. Je lui dis, oui, mais les textes sacrés ont été traduits. Et qui dit traduire, dit trahir. Et lui nous répète, il n'y a aucun problème parce que le code est caché dans le texte exotérique, c'est-à-dire à la portée de tous. On lit l'Évangile et on s'aperçoit que Jésus, lorsqu'il ressuscite Lazare, lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, et lui-même, lorsqu'il va se ressusciter d'entre les morts après 3 jours, le 3 vient d'apparaître. Il est accompagné pour les autres miracles de 3 apôtres. Dans plusieurs des cas, c'était Pierre, Jean, Jacques. Il va attendre le 4e moment, le 4e jour pour Lazare. Il y a des choses qui sont précises et qu'elles soient traduites dans toutes les langues, ça donne les mêmes chiffres. Et Nouridine a découvert le nombre d'or est appliqué à tous les grands miracles de Jésus. Est-ce que Jésus a vécu sur terre réellement? Est-ce un mythe fondateur? Mais toujours est-il que l'enseignement qui est traduit, qui est transmis depuis des siècles, nous apporte une information ésotérique. Elle peut devenir ésotérique du jour où on transmet non pas sur la main qui a montré la voie, le chemin, la voie, le chemin, la vérité et la vie. La main qui pointe dans une direction, ce n'est pas l'objet qu'il faut qu'on regarde comme un objet. Il faut qu'on saisisse le sens du signal qui est donné par la main qui pointe dans telle ou telle direction. Et on s'engage dans ce chemin-là si, évidemment, l'expérience est profitable à l'être. Alors voilà le sens même d'ésotérisme expérimental. Ce n'est pas d'imposer une manière de penser, une manière de vivre. C'est de réaliser que derrière les phénomènes de notre réalité matérielle, il y a un chef d'orchestre, il y a de la connaissance qui n'est pas intellectuelle et qui même utilise la mathématique, utilise le langage des lettres, des sons, pour passer un message à un autre niveau, à celui qui va aller au-delà des formes. Et là, vraiment, c'est quelque chose d'universel, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en toutes les langues, on va retrouver des messages qui proviennent de ce monde de l'esprit. Quand on va dire un enthousiaste, anthéos, ça veut dire Dieu en soi. Inner Jesus en anglais, nous énergiser. Inner Jesus, Jésus en soi qui va nous énergiser. Emergency. De l'urgence, les véhicules d'emergency en anglais. Emerge and see. Émerge et regarde. Alors, on réalise que la langue qu'on utilise nous transmet une manière de comprendre des choses à un autre niveau. Ça semble une parodie de la réalité. Elle est là, à la portée de la main. On est un humain. Un être humain, c'est un humain qui a les mains vides en naissant. Et c'est au cours de sa vie qu'il va prendre avec ses mains le présent. Parce que ce que l'on vit le plus intensément, c'est le moment présent, qui est aussi un présent qu'on reçoit de la réalité. Et ce présent, on l'absorbe, on le fait soi, on le fait pour soi, qu'il nous nourrit. Alors, voilà cette démarche ésotérique qui devient de plus en plus expérimentée, alors qu'au départ, elle était expérimentale, à l'extérieur du périmètre du mental. Dans la dernière partie de notre rencontre aujourd'hui, qui est la 2e rencontre que nous avons faite, bien, je vais vous proposer de comprendre cette réalité sur les 3 axes. On parle de l'espace-temps. On dit qu'on est dans un espace-temps. Et il y a un 3e axe que les scientifiques ont laissé de côté. Pourtant, Il l'utilise dans la fameuse formule d'Albert Einstein, E égale mc au carré. C au carré, tout le monde sait que ça veut dire la vitesse de la lumière au carré. Pourquoi? Et M, c'est la masse. Ben, c'est cette troisième dimension de notre réalité, espace, temps, et après la pause musicale qui s'en vient, on va aborder la réalité sur une manière tout à fait originale. Encore une fois, c'est transmis dans l'ésotérisme à des gens qui veulent entrer dans la connaissance par la porte du temple initiatique. Cette fois, c'est par les ondes de la radio. À tantôt. L'exploration que nous faisons de notre réalité matérielle par l'ésotérisme expérimental et expérimenté, chacun pour soi, nous permet évidemment d'utiliser les bases concrètes enseignées à l'école, à l'université, dans les sciences. Parce qu'autrefois, c'était les religions qui dominaient, aujourd'hui, c'est la science qui devient la nouvelle religion. Comme par hasard, celui qui a vraiment ouvert la grande porte de la nouvelle époque scientifique, c'est Albert Einstein. C'est un nom très allemand, Einstein. Eins, zwei, drei, qui veut dire 1, 2, 3 en allemand. Et Stein qui a donné le mot stone en anglais. Stone qui veut dire pierre. Alors Einstein, ça veut dire pierre 1. 1, pierre, mais on l'inverse, ça devient pierre 1. Le pape, qu'on pourrait dire, de la nouvelle religion, qui est la religion de la science. Et autrefois, la religion chrétienne était basée sur le premier pape, qui était l'apôtre Saint-Pierre. Et Jésus lui avait dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », dit-on. Mais c'est devenu Pierre un, lui aussi. Alors, on change d'époque, on change d'autorité, de mouvement, si on veut. Autrefois, on étudiait la théologie à fond, il y a des gens qui se consacraient toute leur vie à un enseignement religieux. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui rentrent en laboratoire et qui vont étudier toute leur vie dans un laboratoire pour faire évoluer la connaissance matérielle, scientifique, en laboratoire, alors que les autres étaient dans leur connaissance subjective, leur vision de la réalité spirituelle dans leur oratoire. Quand on se sert aujourd'hui de la science, on s'aperçoit qu'on nous parle souvent de la fameuse formule d'Albert Einstein, justement, E égale mc au carré. Mc au carré. C'est étrange, le au carré. Vous savez que le au carré, ça veut dire au carré, un carré. Quand on va dire 2 au carré, c'est 2 fois 2. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Alors, qu'est-ce que c'est au carré? C'est sur une surface, vous mettez 4, sur l'autre axe, vous mettez 4. Sur une surface, vous avez un carré qui est fait de 4 cm par 4 cm, ce qui donne une surface carrée de 16 cm. On comprend bien maintenant que c'est au carré. La vitesse de la lumière au carré. Une vitesse, c'est déjà de l'espace par le temps. 60 km à l'heure, 60 km dans l'espace, en distance, par le temps, à l'heure. 60 km à l'heure. On se sert de deux axes, le temps et l'espace, au carré. Évidemment, au carré. Pourquoi? Parce qu'on vit comme sur une surface. On est dans un univers plat. Mais non, vous allez me dire, c'est volumineux, c'est trois dimensions. En effet, mais la perception de la matière est faite sur une surface, que je compare très souvent à une toile de spandex, c'est-à-dire qui peut s'étirer dans tous les sens. La preuve, vous mettez sur une grande toile de spandex, vous savez, le spandex est une toile un peu comme les vêtements de gymnaste, ça s'étire dans tous les sens. Et vous mettez une balle de golf, C'est assez pesant de balle de golf. Ça fait un creux dans la toile de spandex qui est tendue. Et là, vous laissez partir une balle de ping-pong autour. Elle est moins pesante. Et elle va tourner autour. Pourquoi elle va tourner autour? Parce qu'elle va être attirée par le creux provoqué par la balle de golf, qui est plus pesante. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers, les planètes qui tournent autour du Soleil, qui est plus massif, et qui vont faire qu'ils vont garder une orbite. Et très, très longtemps, à cause de la vitesse, et la vitesse qu'elle-même porte en elle-même, puisqu'elle spinne sur elle-même. Alors donc, l'espace-temps est la façon matériel de voir que nous vivons dans au moins ces deux axes de la réalité de la surface. Alors, on va les appeler l'axe X et l'axe Y, qui sont l'abscisse et l'ordonnée. Et donc, on est dans un espace-temps. Un espace-temps. L'espace, sur les plans ésotériques, vous allez le comprendre avec les semaines qui viennent dans nos rencontres, on l'associe à l'intelligence. Le temps, on l'associe aux émotions, parce que le corps humain, lui, est composé à la fois d'un corps physique, d'un monde de l'âme, du psychique, des émotions, et un monde intelligent. Alors oui, ces trois réalités de l'être humain est à l'image de l'univers. On a un monde physique. Dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la masse. Et dans la fameuse formule d'Albert Einstein, E égale M, masse, C au carré, espace-temps au carré sur la surface. Et on réalise que la masse n'est pas prisonnière de la surface. La masse fait partie de la troisième dimension de notre réalité. L'abscisse est l'ordonnée XY, et on va mettre une verticale qui va de haut en bas, qui traverse la surface, qui nous permet à la perpendiculaire d'ascensionner, de monter ou de descendre dans les enfers. Le mot enfer qui vient de inferno, qui veut dire inférieur, les plans inférieurs. Oh mes amis, ça fait beaucoup d'informations ésotériques qu'on a transmises aujourd'hui, qu'on s'est donné à étudier, à écouter. J'espère que vous n'êtes pas confondus, mais que vous êtes éclairé. Il y a quelqu'un qui est très près de nous présentement, qui va se souvenir d'une formule qu'il m'avait dit, c'est notre ami Jean-Paul Lheureux qui fait la mise en onde de nos capsules. Et Jean-Paul me disait, « Écoute Richard, on dirait que tu places les wagons sur le rail. Enfin, on met de l'ordre dans tout ça. » Ben, c'est exactement le nom qu'on donne en ésotérisme à cette troisième dimension, après l'espace-temps, l'ordre. Et mettre de l'ordre, c'est-à-dire mettre les choses aux bonnes places. Chaque chose a sa place. Sinon, c'est le chaos. On n'est pas dans le chaos, on est dans le cosmos. Il y a le chaos, il y a le cosmos. On est dans le cosmos. Il y a de l'ordre. Tout est ordonné dans l'univers. Il n'y a que l'être humain qui est créateur. Celui qui est créateur, parce qu'il utilise son plan spirituel, est capable de l'instantanéité, de percevoir, d'agir, et ça on en parlera dans les prochaines semaines, par les principes de la magie. La magie, dans la magie, l'âme agit. L'âme, la psyché, agit. Et là, il devient créateur et il peut créer le cosmos. Il peut créer le chaos. Il peut défaire le cosmos. C'est ce qu'il fait présentement sur Terre en grande partie. Hein? Alors, on va saisir la position de chaque chose à sa place parce qu'il y a de l'ordre dans l'univers. À notre troisième rencontre la prochaine fois, je vais aborder avec vous la métapsychologie. Comme on parle de métaphysique bien souvent, bien là on va parler de métapsychologie, c'est-à-dire au-delà de la psychologie. On connaît toute la démarche des psychologues, que ce soit Jung, Freud et tous les autres. Il y a eu évidemment une évolution dans les sciences que nous avons sur Terre, et il fallait simplement s'adapter à cette évolution. Ça n'a pas été facile pour tous, parce que souvent, on s'attache à une école, on s'attache à une façon de vivre, à une façon de penser, et changer pour évoluer, ça déplaît. On aime bien rester dans le confort de nos habitudes et de rester dans le confort de nos compétences acquises. À une époque très ancienne, il y avait Moïse qui était venu apporter une loi, la loi de Yahvé. C'était la loi. Ce qu'il fallait faire, les 10 commandements. Plus tard est arrivé le Jésus qui lui est venu apporter l'amour, particulièrement par le pardon. Galilée était venu expliquer ce qu'est le mouvement. Ensuite, Newton, avec la pomme qui lui tombe dessus, tout est force. Karl Marx, très récemment, au 19e siècle, tout est économie. Freud, au 20e siècle, est arrivé en disant « tout est sexe ». Albert Einstein, « tout est relatif ». Oh là 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 là, on réalise à quel point l'évolution des sciences nous ont permis d'en arriver à quelque chose de moins en moins certain. Tout est relatif. Vous voyez que l'idée générale n'est pas d'imposer une vérité, mais de réaliser que même dans les plans spirituels, c'est comme dans la science, tout est relatif. Et derrière tout ça, il faut vraiment saisir qu'il ne faut pas imposer son savoir et ses connaissances comme une vérité absolue. Il y a une grande partie de subjectif, de personnel, d'expérimenté. Alors, voici la fin de notre deuxième rencontre. Juste pour clore le dossier de l'ésotérisme, de l'exotérisme et de l'isotérisme, on sait qu'il y a un ésotérisme chez les Juifs, basé sur la Kabbale, l'arbre des Séphirotes. Il y a eu un ésotérisme chrétien par après, surtout par la gnose, vous avez déjà entendu parler. L'ésotérisme musulman, qui est beaucoup plus récent, qui vivent eux maintenant, 600 ans après le Christ, comme nous, il y a 600 ans de décalage, sont entrés dans une période que nous, on a connue, les chrétiens, qui était la chasse aux sorcières, l'inquisition. Eux, ils appellent ça la djihad, la guerre sainte. Tout est semblable à un rythme différent puisqu'ils sont apparus, les musulmans, 600 ans après le Christ. Alors pour les musulmans, c'est le soufisme, entre autres, qui est l'enseignement ésotérique de pointe. Il y a l'ésotérisme moderne maintenant qui commence à être de plus en plus ésotérique, qui rejoint par la franc-maçonnerie, par les sociétés occultes, la théosophie, les Rose-Croix, l'anthroposophie et l'ésotérisme du Nouvel Âge, les médecines holistiques, la métapsychologie dont on va parler la prochaine fois, la gnose de Princeton. Tout est en ordre, chaque chose à sa place, l'ordre. Pour avoir plus d'informations, j'ai parlé de Noureddin Yahyabé qui va nous parler de le nombre d'or qui est caché dans les miracles extraordinaires de Jésus, rapportés par des évangiles. Alors, pour avoir des détails sur nos activités, je vous recommande d'aller sur le site internet, je vous donne l'adresse, esotérisme-exp.com. Bien voilà, pour aujourd'hui, merci de votre attention, et j'espère que vous êtes heureux. Car en fait, on a tout ici, maintenant, pour être heureux. À la prochaine, au rendez-vous d'ésotérisme expérimental.